le micro du soir, Aïch la RFI.
Bonsoir et bienvenue à une nouvelle émission, le micro du soir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Daniela Mbolwon, jeune centrafricaine, étudiante en master à la faculté de journalisme de Bucarest, plus précisément le master média développement société. Avant cela, Daniela a obtenu une licence en gestion d'entreprise à Rabat, au Maroc, où elle a démarré sa carrière professionnelle en tant que conseillère commerciale pour un call center et conseillère en assurance. Daniela Mbolwon, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis ravi de vous accueillir au micro du micro du soir. Vous venez de me dire que, juste avant de commencer cet entretien, que ce n'était pas votre premier entretien radio, le deuxième. Alors déjà, première question. Comment avez-vous eu connaissance de ce master à la faculté de journalisme de Bucarest? Pourquoi la Roumanie?
Merci. Alors déjà, j'étais dans la recherche d'opportunités. Et la Roumanie ayant une meilleure relation diplomatique maintenant avec la Centrafrique. Donc sur la page des médias, je pouvais voir des bourses disponibles pour la Roumanie, pour des étudiants centrafricains qui souhaitent venir en Roumanie.
Plus que et pour d'autres pays d'Europe centrale ou de l'Est. Il y avait véritablement un focus Roumanie.
Focus Roumanie.
Important,
d'accord. Voilà, Roumanie. Mm-hmm. Du coup, ça m'a tiqué. Je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir la bourse, mais ça m'a permis quand même de voir qu'est-ce que proposent les universités en Roumanie. Et là, je trouve un master francophone. J'étais déjà bluffée. Je me dis, Roumanie, pour moi, c'est le roumain ou c'est l'anglais.
Ah, mais vous ne saviez pas que le pays était
pas du
assez
tout, hein.
Francophone.
Non, non, pas du tout. Moi, je ne le savais pas avant. Et donc, du coup, j'ai vu plein d'opportunités pour les francophones. Je me dis, le master en question, comme vous avez pu le voir, c'est médias, société et développement. Donc, ce n'est pas trop focus sur... le journalisme, mais plutôt les aspects développement durable, la société, l'humanité, en fait, l'intérêt commun de l'humanité. Donc à ce moment-là, je me dis, tiens, je vais saisir cette opportunité pour aller à Bucarest et puis explorer un autre domaine.
Très bien. Vous m'avez dit en préparant cet entretien que vous venez également de commencer un stage à Radio Romania International, à la section française. Alors, êtes-vous quelque part en train de prendre goût au journalisme ou vous cherchez encore votre voie?
Je dirais très très surprise. Déjà que j'aime... En fait, je suis appréciée plus que moi-même, en fait. Donc, les gens croient plus en moi que moi, je ne crois en moi. Ouais. Donc déjà...
Ici, à Bucarest.
Oui, ici, à Bucarest. Et à Radio Roumanie Internationale, j'étais toujours surprise de savoir qu'il y a un département francophone. Et là, la tonalité, la voix, comment est-ce que je me donne? Mais franchement, je suis encouragée. Et je crois que j'irai encore plus loin. Et en tout cas, j'aime ce que je fais à Radio Roumanie International. Donc j'aime. Mais je crois peut-être que j'ai trouvé ma voie.
Ah, d'accord. Et tout se passe bien à Bucarest? Vous aimez la ville? Ça fait combien de temps que vous êtes là?
Depuis fin décembre, parce que j'étais en retard, question préparation, visa et tout. Et donc on va dire ça fait quasiment 4 mois que je suis là. 4 mois que je suis là et ça se passe très bien. Bucarest, une communauté francophone, tant du côté religieux. Avant que j'étais arrivée, le froid n'était pas ça, mais bon, ça m'a appris quand même qu'il y a des temps difficiles. Mais le printemps me rappelle que le printemps à Bucarest me rappelle que il n'y a pas que les moments forts dans la vie, il y a des moments aussi très doux. Donc le climat, l'ambiance.
Et vous disiez la religion, vous faisiez référence à quoi?
Déjà, il y a des communautés, qui, par exemple la cathédrale, il y a des messes qui se font en français. En fait, pour moi, je m'attendais pas à tout ça. Donc en français, une communauté francophone et aussi à la faculté, voilà, des professeurs qui enseignent en français, des Français qui sont franco-roumains. Mmh. Voilà, une très très belle surprise pour moi. Donc du coup, je ne suis pas dépaysée.
D'accord. Quel regard portent les Roumains et les Roumaines sur vous? Quel sentiment vous avez par rapport à ce regard? J'ai personnellement deux amis qui viennent d'Afrique et ce qu'ils me disent, c'est la chose suivante, alors je ne sais pas si vous serez d'accord, c'est qu'ils trouvent un regard, que leur regard est un regard curieux, pas du tout agressif, parfois curieux mais aussi indifférent et qu'il ce regard laisse la liberté de se balader un petit peu comme on veut. Enfin, c'est leur sentiment. Le vôtre, quel est-il?
Effectivement, je dirais quasiment la même chose parce que je trouve les Roumains assez calmes. Donc, ils ne sont pas trop bavards. Tu as l'impression d'être dans un royaume qu'une république. Et là, la seule chose, en fait, c'est juste le regard. Voilà, c'est juste un regard d'inquiétude ou c'est quoi, qu'est-ce que c'est. Ouais. Il te fixe du regard, mais à part ça, bah, je trouve un peu très très calme et qui essaie de te faire passer un message, même si tu ne comprends pas le roumain. Ils essaient quand même de te faire passer un message et de surcroît, ils parlent aussi anglais. Donc si tu te débrouilles un tout petit peu en anglais, ça se passe. Donc pour moi, les Roumains, ils sont juste c'est un peu calme.
Voilà. Et vous, voilà. Et vous vous sentez, voilà.
Je me sens très à l'aise très pour à l'instant, l'aise, hein. Voilà. Pas du tout confrontée à quoi que ce soit, donc.
C'est très bien. Voilà. Alors, vous venez de la Centrafrique, pays qui est en plein cœur de l'Afrique, comme son nom l'indique, et il est entouré. Vous m'arrêtez si je me trompe, hein, par le Tchad et le Soudan au nord, le Soudan du Sud à l'est, la République démocratique du Congo et le Congo au sud, et le Cameroun à l'ouest. Sa capitale est Bangui et il est indépendant depuis 1960. Alors comment va votre pays aujourd'hui? En préparant cette émission, vous me disiez que la situation était plutôt calme après, je crois, presque deux décennies de conflits militaires, politiques. Aujourd'hui, la situation, même si il y a, je crois, dans certaines zones éloignées de la capitale, des problèmes avec des groupes djihadistes. Bon, ça peut, c'est stable dans la capitale, mais dans le pays, c'est pas complètement stable, c'est ça?
Oui, ben là, vous avez tout dit. Donc, c'était pas évident il y a quelques années, mais là, depuis deux ans, le pays essaie vraiment de sortir de cette situation de crise. Donc, tant du côté économique, social et tout, il y a des efforts qui sont fournis par le gouvernement en place, voilà, pour essayer de sortir de cette crise. Donc, pour l'instant, comme vous pouvez le constater, dans l'arrière-pays, c'est pas toujours calme, il y a encore de l'inquiétude, mais on peut dire que pour l'instant, on espère. On espère vraiment. Et pour l'instant, ça va. Donc, c'est plus ou moins calme.
Et l'influence, elle est plutôt occidentale ou, comme on l'entend souvent, enfin, comme on l'entend plus que ça, comme on le voit et comme on l'observe, parfois russe et économiquement, en tout cas, chinoise?
Chinoise, je dirais non pour l'instant. Non, pour l'instant, je ne vois pas d'influence chinoise ou asiatique.
D'implantation, voilà. De concessions chinoises, parce que c'est le cas dans plusieurs pays d'Afrique. Ils sont très présents.
La Chine, non. Je dirais non. Chine. L'Asie, non. Pour l'instant, je n'en vois pas. Par contre, de l'influence est toujours occidentale. Donc, voilà, les Russes, des entreprises françaises, notamment Total et autres, et voilà, donc plein d'autres.
Donc, surtout des Françaises, oui. Il y a une influence, on ne sent pas l'influence russe.
L'influence russe, oui. Côté influence militaire, il y a beaucoup de partenariats qui se font maintenant.
D'accord.
Le pays essaie de s'allier aussi à la Russie et avec la France qui reste le pays. Allié. Voilà. Donc,
Et il n'y a pas d'animosité dans le pays vis-à-vis de la France, comme ça peut être le cas, par exemple, au Mali en ce moment?
Non, c'est pas visible. C'est pas visible du tout. Donc, tout se passe. Franchement, le pays essaie, comme je le disais tantôt, de sortir d'une crise, donc rechercher des partenariats, des alliés à gauche, à droite. Donc,
d'une façon très pragmatique, en fait.
Voilà, hein. Ouais. Je dirais voilà. Ça. Mais c'est pas visible comme au Mali ou au Burkina, par exemple. Mmh.
Une dernière question sur votre pays, après on revient là, à vous. Qu'est-ce qui différencie un centrafricain d'un Congolais en termes de philosophie de vie, de façon de voir les choses, de culture, je ne sais pas. Quels sont les traits caractéristiques
d'un centrafricain? Ouais. Alors là, ce serait une question un peu très compliquée parce que je dirais que maîtriser le centrafricain, c'est comme, on va dire, essayer de maîtriser, on va dire, le français. Parce que tout est calqué sur le modèle français.
Là, vous parlez de la langue. Mais...
Non, je ne parle pas de la langue, je parle de la personne.
De la personne, d'accord,
voilà,
pardon. Ouais.
De l'identité. Mmh. Donc,
parce qu'il y a plusieurs identités suivant les régions, je suppose, aussi.
Oui, parce qu'on a plusieurs ethnies. Et bah, voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a la langue. Sango qui est parlé sur tout le territoire, mais nous on essaie, donc c'est un peuple, on va dire un pays laïque déjà, donc il y a plusieurs religions, il y a les musulmans, il y a les athées, il y a les chrétiens, il y a les catholiques, les protestants, donc en fait c'est un pays plus ou moins qui est axé sur la liberté, donc du coup faire ressortir les caractéristiques ou les traits d'un centrafricain, c'est très difficile. Voilà, c'est très difficile. Je dirais peut-être que voilà, le Congolais, on va le reconnaître par la sape ou voilà. Mais le centrafricain...
Par la façon dont il s'habille. Vous
voilà,
dire. Ouais, ouais.
Par la façon de s'habiller, qu'ils appellent communément la sape. Mais le centrafricain, il est plus ou moins libre. Et si on peut essayer de faire ressortir les traits, on va parler peut-être de la langue, qui est le sango, et les plats.
Et le sango est parlé qu'en Centrafrique?
Oui, qu'en Centrafrique et aussi au Congo.
Ah, d'accord.
Une partie voilà, de la République démocratique du Congo parle le sango. Il y a une langue qui est similaire aussi au sango et on se comprend parfaitement bien. Et donc, comme je disais, pour ressortir les traits d'un centrafricain, vraiment, c'est très difficile parce qu'on est un peu trop libre, on va le dire comme ça. Et donc, mais il y a la langue aussi, il y a la langue qui caractérise le centrafricain, la langue et la nourriture, les plats. Et c'est un peuple aussi qui ne se fait pas trop remarquer, déjà. Bon, sauf avec la crise, hein, mais à part ça, donc du coup, c'est très difficile de faire ressortir les traits d'un centrafricain. Bah, que par la langue, on va le dire comme ça, par la langue.
Vous êtes originaire de Bangui?
Oui.
Ouais.
Bah, je suis née à Bangui, grandi à Bangui, mais mes grands-parents, ils sont originaires de Bouzoum.
Qui est où
ça.
Par rapport à Bangui?
Au nord.
Au nord.
Au nord. Au nord de la Centrafrique. Ouais.
Et elle est comment cette capitale, Bangui? Vous la décririez comment? Par rapport à Bucarest? Non, c'est une boutade. Il y a beaucoup de différences, évidemment. Mais
Très ambiante.
C'est-à-dire très ambiante. Il y a beaucoup de très vivante.
Très vivante, voilà.
Et beaucoup de marchés.
Beaucoup de marchés, très vivante. Et...
Sûre.
Bah oui.
Ah, oui, il n'y a pas de souci. Il y a combien d'habitants à Bangui, à peu près?
Actuellement, environ 6 millions.
Ah, d'accord.
À Bangui, précisément, c'est 1 million, mais en Centrafrique, je parle...
Le pays, oui,
voilà,
c'est 6 millions.
Pays,
oui,
c'est 6 millions d'habitants,
et, sinon, la capitale.
La capitale, environ 1 million
d'accord.
d'habitants.
Il y a elle est assez verte, il y a des parcs, des lacs
Très verte,
ouais.
Parce qu'il y a la verdure, déjà.
Ouais. Oui, parce que vous êtes en centre. Alors, oui, c'est aussi une question.
Une forêt très dense.
Oui, voilà, parce que vous êtes en plein centre de l'Afrique. Oui. Donc, il n'y a pas de problème de désertification en Centrafrique?
Non.
Non, hein, c'est très vert.
Peut-être
c'est...
au nord, puisqu'on est frontalier avec le Tchad et qu'on partage
le
Sahara.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Et. Bah oui, mais. Au nord, hein, mais après ça, parce qu'on est aussi un pays enclavé, donc on n'a pas d'ouverture sur la mer.
Ouais.
Voilà, mais ça reste quand même un pays avec une forêt très dense, donc il y a la verdure, et quoi d'autre? Le fleuve.
Et donc le qui traverse la ville de Bangui.
Oui, ouais. Justement, qui traverse, qui quitte depuis le Congo et qui traverse la capitale.
La météo, c'est tropical.
Tropical.
Hein, ouais. C'est-à-dire souvent il y a des pluies en fin de journée.
Il y a des pluies, oui, en fin de journée avec une température.
Il y a la saison des pluies.
Il y a la saison de pluie, voilà. Et la saison sèche avec une température variante, toujours les 28, les 30 degrés, même s'il pleut.
Comme à Bucarest aujourd'hui.
Voilà. Par exemple.
Bon, j'arrête de vous embêter sur votre pays. En tout cas, merci de ce que vous en dites. C'est très intéressant. Pour revenir à vous, quels sont vos projets? En préparant cet entretien, vous me disiez, vous aviez une idée très, très intéressante, très journalistiquement, je trouve. C'était de vous intéresser à ces gens du quotidien en République centrafricaine qu'on n'entend pas, qui notamment ces femmes des marchés ou ces artisanes qui travaillent au quotidien et avec leurs mains et c'est ces gens-là que vous aviez envie d'interviewer. On parle souvent de l'Afrique seulement dans les grandes lignes géopolitiques ou autres, mais pas véritablement du quotidien. Mm-hmm. C'est ça qui vous intéresse.
Oui. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, comme je vous l'ai dit, c'est plus faire ressortir, en fait, le caractère en fait quelque chose de pas connu, pas habituel. Donc c'est-à-dire j'ai un projet, on va dire à court terme, c'est de pouvoir prendre de l'expérience, parce qu'il y a un adage qui dit que lorsqu'une personne d'expérience rencontre une personne d'argent, mais la personne d'expérience se fait de l'argent, tandis que la personne d'argent se fait de l'expérience. Donc, moi,
c'est un proverbe centrafricain ou Non, il est valable.
Il est valable pour tout le monde ailleurs. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, pour moi, je me dis, il faut prendre de l'expérience. Donc, à court terme, j'ai un projet de prendre de l'expérience, pourquoi pas, auprès de ceux qui ont connu les médias bien avant, donc en Europe. Et en Europe de l'Est, déjà, que je découvre. Donc, prendre de l'expérience et ensuite repartir en Afrique ou précisément en Centrafrique et faire ressortir le côté méconnu, voilà, de la ville, les activités qui sont plus ou moins non médiatisées, banalisées, ouais, par exemple. Donc, j'ai une vision, on va dire, plus ou moins claire, qui s'établit petit à petit, donc donner un sens, voilà.
Parce que vous me disiez que les médias ne parlaient pas suffisamment de ces gens-là chez vous.
Non. Pratiquement pas.
Voilà.
Les médias, ils se projettent plus sur ce qui est visible, sur voilà la politique, par exemple. Mm-hmm. C'est le quotidien, voilà la politique et voilà ce qui est, on va dire, visible de tous. Mais la partie méconnue, la vie quotidien du centrafricain, par exemple. Voilà, donc essayer de mettre la lumière sur ces petites activités qui font vivre, en fait, le pays.
Mais est-ce que vous réfléchissez déjà, avec votre expérience radio maintenant, à aller interviewer dans les marchés, faire des podcasts son avec ces dames?
C'est ce qui me traverse quotidiennement la tête.
C'est
ce qui me traverse quotidiennement la tête, mais bon, je pense pouvoir y arriver. Avec quels moyens, quelle stratégie? Ça, il me faut de l'expérience pour pouvoir réussir, en fait.
Et vous voulez rentrer en Centrafrique? Vous avez envie de retourner vivre là-bas?
Ah oui.
Oui. Oui. C'est une évidence.
Hein, oui, on se sent toujours mieux chez soi. Mais bien avant ça, j'aimerais avoir vraiment l'expérience qu'il faut.
Ouais, pour vous, voilà. C'est être en Europe, c'est l'expérience et puis après on rentre.
Oui, c'est l'expérience et pas à la va-vite non plus pour rentrer bancal. Non, mais quelque chose de solide, en fait.
Qu'est-ce qui vous manque de Bangui aujourd'hui?
Qu'est-ce qui me manque de Bangui? On va dire premièrement, la gastronomie centrafricaine.
C'est quoi la gastronomie centrafricaine?
C'est du coco, c'est du gunja.
Coco, du gunja, d'accord.
Voilà. Ouais. Ça, c'est les plats vraiment de chez nous.
Avec poulet, riz, c'est
voilà, non, ouais. Ça dépend surtout ça dépend. De la viande.
De la viande. Pas trop de poissons, non? Non, vous n'êtes pas très proche de la mer.
Non, mais on a les poissons d'eau douce. Hein.
Ah,
voilà, donc ça c'est très très bon. Donc la gastronomie centrafricaine, Afrique centrale, bon, en Afrique centrale on mange pratiquement la même chose, donc à base de pâte d'arachide, quelque chose de lourd et de consistant. Hein, mm-hmm. Voilà, donc, c'est ce qui me manque pour l'instant, et la famille, pourquoi pas.
Donc la famille. Pourquoi pas.
Oui. Quand même, c'est pour un bien commun, voilà, relever le nom de la famille, essayer voilà, de trouver la meilleure opportunité. Donc, mais après, il me manque aussi. Donc,
j'ai l'impression que vous êtes... est-ce que c'est propre à votre famille ou de façon générale, cette liberté que vous pratiquez et qui est exprimée, comme vous nous l'avez dit, en Centrafrique, dans vos mots, on la sent très présente. Est-ce que c'est particulièrement propre à votre famille de laisser les enfants libres de faire un petit peu ce qu'ils veulent, ou c'est quelque part culturel? Voilà, en Centrafrique, on aime bien laisser les gens libres.
Peut-être c'est culturel.
Oui. Donc c'est pas c'est votre culturel. Famille particulièrement.
Avant, c'était pas forcément comme ça, mais avec l'influence occidentale. Les familles finissent par laisser en fait les enfants choisir leur voie.
Et voilà. Vous sentez libre de choisir votre voie, que ce soit professionnelle ou même dans votre vie intime?
Complètement libre. Complètement libre. Après, il y a juste quelques aspects qu'il ne faut pas négliger ou comment est-ce que je pourrais le dire dans d'autres mots?
Il y a des traditions Non, c'est plus lié à...
Plus lié, en fait, voilà. Je dirais l'habitude, la vision et...
Un respect comment est-ce que... ou...
Voilà, le respect et plein d'autres trucs, en fait. Mais on va dire les habitudes, en fait, transmises. Des habitudes transmises. Génération après génération. Il faut tenir compte de ça. Voilà. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a le respect? Est-ce que, voilà, donc il y a plusieurs.
Mais ça n'entrave, c'est pas quelque chose qui, pour vous, entrave votre sentiment de liberté. Vous pouvez tout à fait tenir ce respect tout en faisant les choses comme vous avez envie de les faire.
Enfin, oui, parce que
c'est ce que vous dégagez,
moi je me
en
dis
cas.
En fait, si la liberté elle est plus au niveau choix professionnel, choix voilà, de partenaire, choix de modèle de vie, mais derrière il y a cette petite reconnaissance de...
Et puis il faut faire les choses d'une certaine façon.
Voilà,
c'est ça,
d'une certaine façon.
On peut choisir qui on veut pour sa vie.
Mais après, ne pas être en désaccord aussi avec sa famille. Donc, peut-être certaines pratiques, certaines habitudes qui ne sont pas forcément tolérées. Donc, on ne va pas aller au-delà de cette liberté. Donc, cette liberté me permet personnellement de pouvoir faire des bons choix. Pas pour en abuser, en fait. Voilà, et pour ne pas être en désaccord, comme je disais, avec la famille, parce que la famille est sacrée.
Et, oui.
Voilà.
Et un petit retour en arrière, vous avez vécu longtemps à Rabat, vous avez fait vos études là-bas, au Maroc. Est-ce que c'est courant pour un Centrafricain d'aller faire ses études au Maghreb?
Oui, puisque déjà le Maghreb, ils ont une agence de coopération avec les pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, il y a des bourses qui sont disponibles selon chaque pays, voilà, allant de 80 à 300 places par pays, par exemple, pour des étudiants, pour venir étudier au Maroc, donc au Maghreb. Donc, c'est très courant pour un Centrafricain. Il y a une forte communauté aussi.
Voilà, vous avez aimé Rabat, hein?
Ah, beaucoup. Rabat, c'est un coup de cœur. Rabat, c'est un coup de cœur. Et voilà,
C'est beaucoup plus. Donc c'est la capitale politique du Maroc.
Oui,
et puis
la capitale
Casablanca
politique. Casablanca, la capitale économique.
Oui, oui, qui est beaucoup plus effervescente,
vivante,
on va dire.
Bouillante, hein, oui. Mais il y a le calme aussi, il y a Rabat, il y a le calme, il y a.
C'est très vert aussi, hein, Rabat. C'est...
Oui. Quand bien même le pays est plus ou moins désertique. Mais à Rabat, il y a la verdure, il y a l'océan. Donc ça fait beau vivre.
Et ça fait partie d'une. Voilà, c'est une ville, vous savez que vous allez y retourner.
Oui, hein,
oui. Vous avez des amis marocains.
Oui, il y a des amis, bien sûr, des amis marocains. Il y a des cousins qui étudient encore là-bas. Et donc voilà, pourquoi pas faire un tour au Maroc. Et surtout Marrakech, qui est très, très ambiante.
Ouais. Voilà. Y a un vol direct Bangui-Rabat ?
Oui.
D'accord.
Oui.
Plusieurs fois par semaine ?
Deux fois.
Deux fois par semaine, Bangui-Rabat ?
Oui, oui, oui. Bon, Bangui-Casablanca.
Ah, Bangui-Casablanca, après Casablanca-Rabat,
Casablanca,
ça se fait.
Voilà.
Il y a un train d'ailleurs maintenant, un train rapide. Je vais vous poser une dernière question, puis après je vais vous laisser tranquille, Daniela Mbolwone. Qu'est-ce qui vous choque et vous désespère en Europe ? Enfin, en tout cas, l'Europe que vous connaissez, l'Europe de l'Est, et vous êtes, je ne vous ai pas posé la question, vous êtes allé aussi en Europe de l'Ouest ? Vous connaissez l'Europe de l'Ouest ?
Non.
Que Bucarest.
Oui, que Bucarest.
Non, on est en Europe, mais qu'est-ce que... Voilà.
Et Craiova. Craiova. J'étais Craiova. Aussi à Craiova. Oui.
Craiova, d'accord.
Et déjà.
Très bien.
Bucarest et Craiova.
D'ailleurs, ma question serait plus basée sur, non pas nécessairement la Roumanie, mais parce qu'en étant ici, on est en Europe aussi. Et donc, je reviens à ma question. Est-ce qu'il y a des choses qui... encore une fois, en essayant d'élargir à l'Europe, qui vous choque ?
Alors, qu'est-ce qui me choque en Europe ? Le climat. Le climat qui me choque. Pour moi, c'est le climat qui me choque. Et je suis pas encore... Je suis plutôt, moi, bluffée que choquée.
Très bien. Ouais.
Donc pour l'instant.
Agréablement surprise. Ouais.
Voilà, je suis agréablement surprise. Donc du coup, qu'est-ce qui me choque ? Je ne dirais pas encore pour l'instant, non. Non.
Et de notre côté, qu'est-ce que selon vous, l'Afrique pourrait, en termes de philosophie de vie, on va dire ça comme ça, pourrait apporter à l'Europe, qu'est-ce que l'Afrique pourrait lui enseigner, pas simplement à l'Europe, au monde occidental de façon générale, au monde dit bien développé.
Alors, pour répondre
votre sentiment personnel.
Mes sentiments personnels concernant qu'est-ce que l'Afrique pourrait enseigner, voilà, ou apporter.
Je vais vous donner je vais vous aider un petit peu, je me rappelle, en préparant cet entretien, que vous me disiez que vous aimiez prendre les choses d'une façon plutôt relaxée et quand il y avait des problèmes, savoir être... un peu distante et prendre du recul, relativiser. Est-ce que ça, c'est éventuellement quelque chose que les Centrafricains pourraient apporter, ou l'Afrique de façon générale, je ne sais pas. J'essaie de vous mettre sur une voie, mais ne la prenez pas nécessairement.
Hein. Oui, j'essaie.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Ah oui, si, je comprends. Alors donc, pour essayer de faire la liaison... moi, je dirais que déjà que le quotidien, en fait, le quotidien du Centrafricain est plus ou moins... c'est-à-dire, c'est l'opposé. Si je veux comparer, ça, parce que j'ai fait quand même beaucoup de pays d'Afrique, donc du coup, essayer de comparer l'Afrique, en fait, essayer de voir qu'est-ce que l'Afrique peut apporter pour l'Europe, déjà, c'est... C'est deux continents très différents, avec, on va dire, l'avancement aussi très opposé, côté technologie, côté beaucoup plus... Vraiment, il y a une grande différence. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire la capacité de la vie sociale, c'est-à-dire au-delà de la pauvreté, si on peut le dire comme ça, la pauvreté qu'il y a en Afrique. Vraiment, il y a ce côté social-là.
Et de solidarité entre les gens.
De solidarité entre les gens, qui est aussi à valoriser. C'est-à-dire au-delà des problèmes, au-delà de la famine, au-delà de la guerre, des crises. Mais les gens, ils arrivent en fait à s'en sortir. Donc,
beaucoup d'entraide.
Beaucoup d'entraide, beaucoup de... Franchement, la mentalité est...
On ne se sent pas seul.
On ne se sent pas stressé, forcément.
Parce qu'on sait que de toute façon, il y aura un soutien.
Il y aura...
C'est ça, hein?
Oui, on va le dire comme ça, parce que pendant la crise, j'ai vécu des choses
quand
vraiment...
Quand vous dites pendant la crise...
En Centrafrique.
Oui, c'est-à-dire la crise, ces 20 dernières années, enfin, qui se sont terminées...
Je ne dirais pas 20 dernières années, je dirais peut-être 10 dernières années.
D'accord.
Voilà, donc il y a 8 ans, par exemple. J'ai vécu des situations très difficiles, toute la famille, hein, parce que un de ces quatre matins, il y a les armes, il y a des détournements d'armes, et tu sais pas par où commencer, quoi dire, mais rien. Et au final, tu arrives à t'en sortir. Donc, au-delà de la pauvreté, de la crise, de beaucoup de choses qu'il y a en Afrique, de très difficiles à supporter pour un Européen, mais il y a le mental. Je dis le mental de l'Africain, pour moi, c'est franchement, chapeau, quoi.
C'est-à-dire, comment le définir?
Comment le définir? Il est assez fort, assez passion. Il se dit que oui, en espérant toujours que ça va aller mieux. Et ça, par contre, c'est quelque chose. Je pense qu'on peut le développer à travers la sociologie ou la science qui étudie plutôt l'être humain. Ouais. Voilà, l'être humain, ça, c'est quelque chose de...
C'est un vrai trésor africain.
Africain, voilà, ça, c'est un trésor africain.
Un message à envoyer davantage au monde occidental, qui parfois se préoccupe de choses dont il ne devrait pas se préoccuper.
Hein? Voilà, si on peut le dire comme ça. Donc ça c'est un côté, voilà, ça c'est ce qui me fascine en Afrique, ou particulièrement en Centrafrique. Après, qu'est-ce que l'Afrique peut apporter au-delà de sa richesse, quand tous on sait déjà que c'est un continent très riche. Voilà, donc au-delà de ça, mais on se rend compte que après l'évolution de la technologie, mais ou l'évolution, voilà, du monde, qu'est-ce qu'il y aura après? Au retour à la source. Donc on sait que c'est rien n'est encore fait là-bas, rien n'est encore bâti en Afrique ou en Centrafrique plus précisément, mais c'est l'espoir en fait de la génération future. Donc voilà, quand on aura fini d'explorer d'autres planètes, d'autres mondes, il faut revenir à l'essentiel, revenir aussi sur le continent africain, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à modifier. Donc il y a plein de trucs à faire qu'on se dit qu'après après l'évolution, ou on va dire...
Je crois comprendre ce que vous dites, c'est-à-dire que mais vous le dites très bien, hein, c'est-à-dire que vous voyez un monde qui se développe très rapidement, enfin, le monde occidental, le monde et d'un autre côté, votre message subliminal, vous me direz si je me trompe, c'est de dire arrêtez-vous un instant. Regardez ce beau continent qui est l'Afrique. Essayons de construire ensemble, qu'il y ait davantage de liens. C'est un peu ça ce que vous avez envie de dire.
Voilà, hein? Un tout petit peu. C'est quasiment ça. C'est-à-dire au-delà de construire un monde meilleur, un monde qui va vite.
Avec l'humain d'abord.
Voilà, il faut tenir compte de l'humain et ses caractéristiques. Quoi.
Daniela Mbolwon, merci beaucoup pour votre témoignage. C'était très, très intéressant et différent pour nous. Vous êtes la première... non, peut-être pas la première. Oui, la première africaine que nous recevons ici. La semaine dernière, nous avions un roumano-libanais. Et je suis ravi que vous ayez accepté cette invitation. Merci.
Merci
Daniela.
Merci.
Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Cet entretien, vous pouvez le retrouver sur la page Facebook de RFI et également sur rfi.ro. Merci à vous, Weekend Blackout. Au revoir.
Le micro du soir, Aïchla RFI.